vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du mercredi 4 juin 2025. Dans l'émission de ce jour, nous vous proposons le plateau radio qui a inauguré la deuxième édition de la semaine anti-impérialiste le 1er juin 2025 et cela se passait à la Galerie 13 dans le 11e arrondissement de Paris. Et cette semaine anti-impérialiste a lieu du 2 au 8 juin 2025. Bonne écoute.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur ce beau plateau radio à l'occasion du vernissage de l'exposition « Héritage et mémoire des luttes anti-impérialistes » à Paris. Cette exposition, elle a lieu à la Galerie 13 et elle a lieu dans le cadre d'un festival internationaliste intitulé Organize, Fight, Win, s'organiser, lutter et gagner. En plein génocide à Gaza, c'est face à l'urgence de la construction d'un front international de lutte anti-impérialiste que cette semaine a été pensée. Alors on est plusieurs autour de ce plateau. On a même la chance d'avoir certains des membres qui ont participé à l'organisation de cette exposition et donc de cette semaine. Et avant toute chose, je vais forcément leur passer la parole afin qu'ils reviennent sur déjà l'intention de cette semaine internationaliste. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Oui, effectivement, il y a 2 ans, on avait un programme un peu hybride entre à la fois des luttes sociales nationales, parce qu'on avait traversé des séquences de mouvements sociaux, etc. Et puis aussi, on avait décidé d'inviter toutes les organisations avec qui on avait développé des amitiés fortes au fil des ans. Et puis, cette année, on s'est dit que c'était nécessaire de se concentrer sur les solidarités internationales dans un contexte de recrudescence des attaques fascistes, de la militarisation globale de l'Europe. Et du coup, d'ouvrir un espace d'échange, de discussion, de rencontre entre des militants qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens financiers ou matériels de se croiser le reste du temps, et du coup de mettre à disposition un moment, un temps, une semaine de réflexion à la fois sur où est-ce qu'on va, d'où l'on vient. Je pense que ce soir c'est plutôt la soirée d'où on vient. Et, et d'essayer de, voilà, de s'approprier ce truc-là, de créer des rencontres, de discuter et de s'armer collectivement pour affronter les années à venir qui s'annoncent être tendues.
Ok. Alors, vous êtes un certain nombre de collectifs, en fait, à avoir participé à cette semaine. Est-ce que tu peux juste peut-être citer une partie des organisateurs de sorte à ce que les auditeurs sachent qui s'adresse à eux.
Qui sont derrière. Alors, à la base, c'est un festival qui est organisé pour honorer la mémoire de Clément. Donc, il y a plein de personnes aux profils différents. Il y a déjà les anciens amis de Clément, l'Action antifasciste Paris banlieue, mais aussi TCEDEC cette année, ou Young Struggle, FPP est aussi co-organisateur de cet événement, donc ils en font partie. Je n'aurais pas donné toute la liste exacte, j'ai vraiment peur d'oublier des gens, donc je ne vais pas trop
me lancer. Moi, j'avais entendu parler aussi du MFC, de Samy Doun.
Du MFC, dimanche.
De 1871, du Décolonial Film Festival.
Voilà.
On est sur un sacré regroupement.
Voilà. Alors, chaque collectif assume plus ou moins un événement. Demain, c'est le collectif 1871 qui fait une projection au Luminor. Mercredi soir, c'est TEDx qui organise un concert à la Flèche d'Or pour fêter leurs 2 ans. Mm-hmm. Jeudi soir, c'est Young Struggle qui co-organise cette soirée sur le panturquisme à la parole errante. Tout le monde s'est un peu approprié cet événement de la manière qui lui semblait la plus juste. Mm-hmm. Et voilà, on essaie de faire que ça tienne ensemble et que surtout que tout se passe bien.
Et jeudi, il y aura quand même une commémoration, déjà en mémoire de Clément. Et ce week-end, il y aura des discussions, donc tout le week-end qui seront à la parole errante, avec le dimanche, manifestation, évidemment. Alors, justement, aujourd'hui, vous avez décidé d'ouvrir cette semaine en faisant un vernissage qui s'intitule, je le répète, « Héritage et mémoire des luttes anti-impérialistes à Paris ». Et dans ce vernissage, vous avez regroupé, en fait, un nombre de médias différents. Donc, on a des affiches, des revues, du son, etc.
Pourquoi ? Une banderole.
Ouais, une banderole, effectivement. Pourquoi est-ce que vous vouliez commencer par ce vernissage ? Pourquoi vous avez rajouté, en fait, ce temps-là d'échange par rapport à l'année précédente ?
Ben, déjà parce que pour nous, jeunes militants, alors jeunes et plus très jeunes, c'est important de s'approprier un héritage qui est celui des soutiens anti-impérialistes et des luttes de solidarité internationale qu'ont mis en place les militants français et parisiens en particulier. Et du coup, c'était une bonne occasion pour nous d'essayer de rassembler un corpus qui serve de prétexte à la discussion, à la mémoire aussi, à se remémorer des séquences de lutte qui ont été importantes pour, on va dire, le camp révolutionnaire parisien, et de montrer que Paris a été aussi le centre, ou en tout cas pas le centre, mais un endroit où beaucoup de militants internationaux se sont croisés, à la fois parce qu'ils voyageaient et ramenaient des informations, des solidarités, etc., mais aussi parce que Paris a hébergé beaucoup de diasporas, de militants politiques, en exil ou pas, et qui se sont organisés, et tout ça s'est mélangé au fur et à mesure des années, mais je pense qu'on en reviendra avec les acteurs de ces séquences-là qui sont autour de la table et qui pourront en parler mieux que moi. Et donc du coup, bah oui, on va appeler ça du matériau militant dans l'exposition, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait des traces de ce qui est arrivé politiquement, bah, des photos de manifestations, des archives, des affiches, des livres, des revues, des fanzines, voilà, tout ce qui peut faire circuler du sens et qui porte la mémoire des solidarités qui ont été, et des liens et des amitiés qui ont été nouées au fur et à mesure des années depuis Paris et toujours le regard vers le sud.
Et ben justement, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, effectivement, on a un certain nombre de contributeurs à cette exposition autour de la table. Donc c'est le moment où on va un peu leur passer la parole. Et la première question que je voulais vous poser à chacun et chacune, c'est déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous dire pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à cette exposition et dans quelle mesure ça faisait sens pour vous ? Peut-être que tu peux commencer.
D'accord. Alors moi je suis Joyce Drey, je suis photographe, militante, décoloniale. Je soutiens la résistance du peuple palestinien depuis toujours, depuis que j'ai commencé à faire de la politique et à militer dans un monde décolonial. Alors, pourquoi je suis venue avec un grand enthousiasme ? C'est sans doute parce que, effectivement, ce qu'on a vécu en soutien au peuple palestinien dans les années... Alors moi, j'ai fait la première intifada, mais ça fait un peu ancien combattant. Et l'émission civile, c'était la deuxième intifada. Tout ce mouvement qui naissait ici à Paris pour aller protéger, soutenir le peuple palestinien au début de la deuxième intifada était un moment extrêmement important et qu'on a oublié en fait. Parce que je me souviens que, par exemple, quand Urgence Palestine est née, des anciens des missions civiles, on s'était dit il faudrait qu'on sorte nos emblèmes, nos t-shirts, etc. Et c'était complètement méconnu. Et c'est vrai que c'était de, au début, c'était avec beaucoup de, il y a eu beaucoup de monde qui est venu, qui est allé en Palestine soutenir les Palestiniens. Et puis petit à petit, ça s'est un peu défait. Mais cette mémoire-là est une mémoire importante. C'est une mémoire des luttes. C'est une mémoire du peuple, pour le peuple palestinien aussi. Car ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est la mémoire du peuple palestinien. C'est rendre ce peuple palestinien vivant. Alors qu'on essaie de l'anéantir aujourd'hui et de le... Moi, je ne me suis pas rendu compte, par exemple, que tout ce que je faisais depuis les années 80 était une archive et permettait de reconstruire un récit qui tente à être détruit aujourd'hui. On essaie de détruire le peuple palestinien, mais on essaie aussi de détruire son récit, de détruire sa vie, de détruire sa mémoire, de détruire sa culture. Et je crois que c'est extrêmement important de pouvoir être là et de le montrer et de le montrer avec force.
Ok. Guy, à toi. Pourquoi t'es là?
Ah, moi je suis là pour égayer la soirée. Non, la question de l'impérialisme est posée, même si sur le fond, il y aurait beaucoup à dire, ça c'est peut-être pas le débat de ce soir, sur la modification du rapport à ce qu'est l'impérialisme entre la période où j'ai commencé à militer, c'est-à-dire le début des années 70, et aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'important pour que les gens ne reproduisent pas non plus des espaces ou même des erreurs qui ont été faites, parce que si l'impérialisme existe encore aujourd'hui, c'est que on a fait aussi des erreurs. Pour ma part, j'ai participé à l'ensemble des luttes anti-impérialistes du début des années 70 jusqu'à la fin du mouvement autonome, c'est-à-dire le début des années 80. Donc il a été question, pour ma toute jeunesse de la Palestine, puisque j'étais lié à une organisation, la gauche prolétarienne, qui a organisé les premiers comités Palestine sur Paris, dans sa prolongation, la naissance du mouvement des travailleurs arabes, qui a aussi pris la question palestinienne très à cœur, notamment en organisant à travers son travail sur les entreprises, les usines, un réel soutien à la cause palestinienne. Il y avait bien évidemment des organisations étrangères qui étaient intimement liées à l'anti-impérialisme à l'époque, notamment pour des raisons spécifiques sur lesquelles on pourra revenir, la RAF en Allemagne, c'est-à-dire le groupe appelé vulgairement Bader-Meinhof, dans lequel on retrouve certaines affiches ici qui rappellent que ces militants ont été assassinés en prison. Donc il y a eu toute une série de campagnes de soutien, aussi bien sur le Chili que sur le Vietnam, puisque tout a commencé en fait dans un large mouvement de masse autour de 68 et après 68 sur la question vietnamienne, qui rassemblait plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Paris et de toutes les capitales européennes. Et puis la question du Chili aussi, qui a beaucoup mobilisé, le coup d'État fasciste au Chili, qui a permis une grosse mobilisation de masse, y compris ici en France. Et puis toute une série d'actions qui ont été faites, des actions de masse, et puis aussi des actions semi-clandestines, dans la période des années 70. Pour en citer quelques-unes, l'attaque de l'ambassade d'Algérie, notamment le vol aussi collectif organisé au tout début de l'autonomie d'un film assez puant qui s'appelait Red sur Entebbe. Donc les salles de cinéma avaient été attaquées et l'ensemble des copies de ce film existant sur Paris avaient disparu au cours de cette attaque. Bon, je pourrais citer beaucoup d'exemples de coordination ou de mouvements ou de groupes qui ont participé à ça. Et la question de l'impérialisme, même si, et j'en reviens là à la thèse que je défends aujourd'hui, même si l'impérialisme a beaucoup changé. On avait affaire à un impérialisme dominant à l'époque, qui était l'impérialisme américain. Il y avait encore le rideau de fer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une sphère qui a disparu, c'est-à-dire l'Union soviétique, qui, sans être très radical sur la question, proposait quand même une alternative et un soutien au collectif qui luttait sur ces questions-là. On pourra y revenir aussi dans cette discussion. Voilà, grosso modo, sur l'expo qui est là ce soir, il y a certaines affiches qu'on a collées à l'époque.
Il y a aussi certaines archives sonores, non ?
Il y a aussi des archives sonores qui sont des archives de FPP et du travail qui a été fait par FPP au début des années 90 et notamment sur la question de la Palestine et du Liban. Je citerai celle que vous avez mis en exergue, c'est-à-dire celle de l'interview de Sois Béchara dans le cadre de Parlement Libre, pour rappeler que Sois Béchara était une militante libanaise, proche du Parti communiste libanais, qui avait tué le chef de la milice pro-israélienne au Liban et qui est sorti de prison dans les années 90 et nous avait donné un long entretien dans le cadre de Parloir Libre. Voilà.
Pour terminer le tour de table, Raoul...
J'étais en train d'écouter religieusement Audi. je ne vais pas finir son robot, du moins.
Non, pourquoi ? Alors, toi, il se trouve que tu as plutôt ramené des affiches. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un petit peu...
En réalité, on m'a sollicité, je me souviens ni plus très bien ni chez ni comment.
Bah, c'était moi. Je t'ai envoyé un mail et après je t'ai appelé.
Et en fait, c'est parce que j'ai des marottes comme ça. J'en ai une qui aide à collecter, constituer des archives, en particulier d'affiches, mais pas que. Et donc, quand j'ai été sollicité, eu égard à l'objet de la manifestation, ça me paraissait aller de soi. Donc, je sais pas, j'ai mis à disposition une soixantaine d'affiches, une collection de la revue Partisan, des bulletins de Lettres Continentales, des choses dans ce goût-là. Après, j'ai pas grand mérite. Mon métier, depuis maintenant près d'un quart de siècle, c'est de faire libraire, bouquiniste, courtier en livre ancien, en document. Je bosse pour des institutions diverses et variées. Et j'ai une modeste activité éditoriale dont tu sais quelque chose. Puisque tu figures dans un ouvrage collectif qu'on a fait là, il y a deux ans. Voilà, et que dire de plus ? Là, j'ai créé.
Peut-être revenir un peu sur cette marotte, justement.
Ouais, eh bien, moi, j'ai commencé à militer très minot. Je devais avoir 11 piges. Ça peut paraître étrange, mais moi, je suis un enfant de l'immigration et d'un quartier populaire. Et une des voies de socialisation dans le quartier où j'ai grandi, c'était la jeunesse communiste. Aujourd'hui, ça peut paraître curieux, mais c'était une organisation de masse, littéralement.
Moi aussi.
Et donc, moi, j'ai adhéré très jeune, j'avais 11 piges. Et quand t'es minot, les trucs, tu commences à scotcher des affiches dans les halls d'immeubles de ton quartier. C'est pas... Et puis après, quand tu montes en grade, tu vas coller le soir avec les grands, tout ça. Voilà, il y a un truc qui m'est resté. J'avais tendance à garder une affiche de celle que je collais tout le temps. Et donc, j'ai commencé à constituer comme ça... J'aime pas beaucoup le terme de collection parce que j'ai pas la collectionnite à proprement parler, mais je les considère comme des archives utiles, nécessaires. Voilà. J'ai un peu la nostalgie, je l'avoue, d'une période où ce médium, qui est un médium modeste, hein, qui demande pas beaucoup de moyens financiers pour concourir à sa production, couvrait les rues de Paname. Moi, je me souviens que même au lycée, c'était blindé d'affiches partout. Les universités parisiennes, les rues, et ça, je trouve ça terrifiant que ce médium se soit raréfié à ce point. Et donc, le fait de le conserver, tenter de le transmettre, pour que les gens puissent se l'approprier visuellement, l'enjeu, c'est peut-être que ça ressuscite des vocations. Il y a des gens, il y a des francs-tireurs, il y a quelques affichistes actuels, des gens qu'on peut nommer, hein, mais qui font un boulot, un collectif comme Ne rougissez pas, qui est un collectif de jeunes femmes qui font de la sérigraphie, des affiches politiques en sérigraphie, Régis, du Gudus, il y a des gens dans ce goût-là. Mais globalement, les orgas ont déserté, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de volonté ou d'intérêt pour le médium, et à mon avis, c'est un tort, parce que c'est un médium modeste, et qui me semble indispensable, quoi, parce que une affiche bien placée, ça peut causer à des centaines de personnes pour peu... Et puis bon, ce que tu vois sur les murs, ça témoigne aussi d'un moment. Alors, c'est pas toujours le cas, il y a des affiches qui sont pas signées, qui sont totalement anonymes ou anonymisées, mais ça témoigne aussi, il y a des grands noms de la production graphique, artistique, du tournant des années 60-70, qui ont produit des affiches que tu as là au mur. Hein. Mmh. Voilà.
Toi, tu as apporté un certain corpus d'archives.
Ouais. Et Nénès, on
a d'affiches. Ouais.
On se partage, mais il est timide, il ne veut pas parler.
Alors, résultat, tu seras son porte-parole.
Ouais.
Alors, dans les différentes affiches que t'as apportées, il y avait donc ce thème de l'anti-impérialisme. Est-ce que tu peux revenir sur comment t'as construit ton corpus un peu pour en te disant là, ça
je
va.
Je leur ai apporté une sélection, je sais pas, je leur ai apporté un peu plus d'une semaine. Ils m'ont dit à peu près ce qu'ils souhaitaient. Je leur ai fait une présélection de 100-120 affiches. Ils en ont conservé 60. Elles sont pas toutes sur les murs. Visiblement, ils vont essayer de les bouger un peu pendant la semaine.
Je pense qu'ils vont les vendre en scred.
Ils peuvent, mais il va falloir passer à la caisse après. Non, en réalité, je suis parti de leur présupposé, mais ce que vous avez défini l'un et l'autre, c'est-à-dire les enjeux de la semaine. C'est-à-dire, naturellement, il y a la dimension, la mémoire de Clément Méric, mais l'axe qui a été donné, c'est Paris comme lieu, comme l'un des épicentres des mouvements de solidarité internationale, là où sont tissées des rencontres, voilà, et de ce point de vue-là, moi, j'aurais fait une sélection qui correspondait à leurs attendus. J'aurais pu faire d'autres choses. J'ai essayé de me fier à leur faire une proposition qui couvrait tous les continents, voilà, avec essentiellement des affiches produites et imprimées à Paris ou en région parisienne.
Ok.
Voilà. Quel autre critère ? Et puis de varier un peu les plaisirs, c'est-à-dire d'affiches lettrées, des trucs un peu plus iconiques. Voilà.
Ok. Alors justement, avec toi, on voulait peut-être revenir sur une histoire dont on a un peu tous la nostalgie qui figure dans ces affiches. Tu as ramené des affiches de la Tricontinentale.
Ouais, en fait, c'est des affiches produites par l'OSPAL, qui était l'Organisation de Solidarité avec les Peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine. Ça naît en 66 dans le sillage de la conférence tricontinentale de La Havane. Bon, pour les auditeurs les plus jeunes ou ceux qui ont pas, il y a de très très bons bouquins maintenant de référence là-dessus. Mais pour qui, en gros, l'idée, c'est dans le sillage d'un truc qui est antérieur en 54 à une conférence à Bandung. La conférence de Bandung, c'est une conférence pour la première fois de jeunes États qui ont accédé à l'indépendance, mais pas que. Le Japon était représenté, par exemple, alors qu'il était quand même sous mainmise états-unienne sévère. Mais tu as de jeunes États qui essayent d'imaginer une position sur la scène géopolitique de l'époque, qui est en pleine guerre froide, qui soit une position qui tienne l'ogre soviétique et le faucon états-unien à égale distance. Voilà, ça c'est le siège de Bandung. Ça prend une charge 11 ans plus tard, en 66, avec la conférence tricontinentale de La Havane. Pour que tu aies un ordre d'idée, Bandung, tu as des gens aussi divers que Nkrumah qui sont présents, délégation japonaise, tu vois, le truc. Et pour le FLN algérien, qui 6 mois plus tard va déclencher la lutte de libération nationale, c'était Hosni Haït Ahmed qui représentait le FLN à cette conférence. Donc bref, tu as l'OSPAL, ça naît à La Havane, quelques mois après la conférence tricontinentale, qui s'inscrit dans le sillage de Bandung, qui monte d'un cran en termes de politisation et d'enjeux, compris de militarisation de la lutte armée anti-impérialiste, voilà, pour reposer comme ça. Quelques mois plus tard, il y a cette structure qui naît. Elle est confiée à un mec qui est décédé il y a pas très longtemps maintenant, qui était le frère. Tout le monde a en tête, quand tu imagines les barbus de la révolution cubaine, là. Il y a Fidel, il y a Che, puis t'en as un qui a un chapeau de paille souvent. Ouais. Lui, il s'appelait Camilo Cienfuegos. Il est mort dans un accident d'avion. Il avait un jeune frère, Osmani Cienfuegos, à qui on a confié la responsabilité de cette structure, qui l'a animé jusqu'à sa mort. Hein. Il est mort au travail, il n'a pas pris de retraite, il a animé jusqu'au bout. Vu la situation de Cuba aujourd'hui, et bon, après, la situation des mouvements, parce qu'une partie du travail a été accomplie en termes d'accès aux indépendances, mais une partie des mouvements de libération nationaux, et ce qui en est résulté dans les États post-indépendance, ça s'est un peu étiolé dans les années 70. Ils continuent de produire quelques événements, quelques animations, ça existe encore, le SPAL, hein, c'est pas tout à fait enterré, ils ont des bureaux qu'on peut visiter à La Havane, mais bon, ils sont exsangues sur le plan financier. Et ça n'a plus du tout l'audience et le rayonnement que ça a eu dans le tournant des années 60-70. Pour te dire, l'OSPAL, parce que c'est ça que tu posais, tu as des centaines, ce que je dis bien, des centaines de jeunes militants qui étaient formés ou pas d'ailleurs, qui ont été souvent formés à La Havane, ils sortaient, ils n'étaient pas du tout leur formation initiale, qui ont été formés dans des institutions de l'OSPAL, des institutions connexes, comme les ateliers René Porto-Carrego à La Havane, qui ont formé à la sérigraphie des centaines de militants de tous les horizons, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des militants qui arrivaient du Timor, d'Oman, du Salvador, enfin vraiment, c'est une sorte Beaucoup d'entre eux ont poursuivi leur activité. Certains, enfin, un certain nombre, mon goût un peu trop significatif, se sont tournés vers le monde des galeries et ont fait une carrière d'artiste. Voilà. Mais ça a été vraiment une pépinière de talents et formé à ce qu'on appelle l'école cubaine. C'est-à-dire qu'il y a quand même, t'identifies, même s'il n'y a pas de logo Ospal sur une affiche, t'identifies vite une affiche Ospal. Pour faire court, t'as le style Ospal, c'est très marqué par les canons de l'affichisme cubain. Et les canons de l'affichisme cubain, c'est la façon dont les Cubains se sont réappropriés les codes de ce qui va ensuite émerger, comme le pop art, etc. Avec des grands apports de couleurs, des éléments très stylisés, des emprunts aussi à la tradition, une tradition ancienne, qui remonte au Bauhaus, du collage, de l'esthétique du collage. Voilà. Et l'importance très, très singulière de la proportion entre le propos, les traits et l'image en elle-même. Voilà.
Et on vous invite tous à donc venir à la Galerie 13 pour venir voir toutes ces affiches. Pour continuer justement sur le corpus qui est mis en avant dans cette exposition et sur le rapport avec les expériences militantes, Joss, toi tu as déjà mis en avant que il y avait cette question des missions civiles et que toi t'avais beaucoup travaillé autour de la cause palestinienne et du peuple palestinien. T'as ramené là des photos. Comment est-ce que ça s'est construit ? Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience militante, s'il te plaît ?
Alors, les missions civiles, c'est un tout petit moment dans l'histoire de mon travail sur la Palestine, puisque moi j'ai commencé à photographier la résistance. Parce que c'est bien, j'insiste, hein, j'ai toujours fait le choix de photographier la résistance du peuple palestinien depuis 87. Alors, à la fois, au départ, c'est un peu un témoignage, mais c'est le témoignage sans l'engagement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on témoigne, beaucoup de journalistes viennent, témoignent pendant un mois, et puis vont témoigner ailleurs, disent que l'engagement, il suffit de témoigner pour être engagé. Non, moi, je me suis engagée avec le peuple palestinien, toujours. Par exemple, c'est quelque chose que je faisais toujours, on me l'a rappelé, j'ai fait une intervention au musée palestinien il y a quelques jours, et je me mettais toujours du côté des Palestiniens. Je me mettais pas derrière l'armée. Je me mettais dans la manifestation, de façon à être avec eux tout le temps, de façon à pouvoir sentir leur résistance, leur courage, leur capacité à résister à l'armée, même si finalement l'armée tirait sur eux. Mais on savait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est un véritable anéantissement. Il y avait quand même, on était un peu protégés par notre nationalité. Ils n'allaient pas tirer sur une personne européenne, c'est sûr. Mais le choix, c'était d'être avec eux, systématiquement avec eux. Et mon premier moment fondateur, c'est un moment absolument incroyable où, on partait à la manifestation avec des amis palestiniens. Tout gai, hein, la manifestation du vendredi, on se rejoint sur la place à Ramallah pour aller manifester, et paf, l'armée vient de tuer un jeune. Et on rejoint le groupe de beaucoup de femmes et de jeunes qui commencent à se confronter à l'armée. Et moi, c'était une de mes premières fois hein, où je me retrouvais dans une situation pareille, avec le sang de ce jeune qui était répandu sur le sol. Et comme les femmes autour de moi, je me mets à pleurer. Et mon ami, Isla, me dit, non mais attends, t'es pas là pour pleurer, toi. T'es là pour témoigner. Et je me suis secouée. Et je me suis mise à photographier et je ne me suis plus jamais arrêtée. D'ailleurs, ce jour-là, on est parti à travers la montagne pour rejoindre le village d'où ce jeune avait été tué, de façon à photographier la famille, les obsèques, les manifestations qui se mettaient en place, parce que la première intifada, il y a eu, ici, on parlait de la danse des pierres, des jeunes en train de lancer des pierres, mais la première intifada, c'était une organisation populaire, avec des comités populaires, avec des manifestations politiques. Quand je revois les photos aujourd'hui de ces manifestations dans ce village, où les femmes portaient des pancartes en disant non à la présence de Schultz en Palestine. Donc c'était vraiment le peuple était complètement politisé, complètement organisé, et ça c'est un récit qu'il a fallu du mal à passer, mais qu'il a fallu maintenir de façon à ce que ce soit pas toujours du folklore, hein, l'intifada, que ce soit un peuple qui porte son soulèvement, son intifada, parce qu'il veut vouloir redonner au mot intifada son sens, hein, l'intifada, ça veut dire soulèvement populaire, c'est-à-dire soulèvement. Aujourd'hui, on entend dans les radios que intifada, ça voudrait dire aller tuer des juifs, aller, etc. Mais l'intifada, c'est un soulèvement. Moi, je le porte, quand il y a un soulèvement ici, je pense à intifada. C'est vraiment quelque chose qui part du peuple et de l'organisation d'un peuple et de l'organisation politique de tout un peuple. Donc, pour moi, ça a été... Alors, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que c'était une archive. J'y allais tout le temps, j'allais, je revenais. Ici, on faisait des expositions, on essayait de sensibiliser, de faire savoir, de faire connaître la beauté du peuple palestinien, parce que c'est un peuple très beau, très, très ouvert, en fait. Donc ça, c'était aussi... et sa résistance à tous les niveaux. Et il a fallu se... Les journaux, par exemple, refusaient, à part les journaux du Parti communiste, refusaient cette vision du peuple palestinien. On voulait des pierres, des jeunes qui lancent des pierres avec des lance-pierres. Ça, c'était la révolte. Tout ce qu'il y avait derrière n'intéressait personne, n'intéressait pas la presse. Donc, il a fallu construire ce récit contre vents et marées, que la presse l'apprenne pas. D'ailleurs, ensuite, j'ai supprimé d'aller voir la presse. C'est pas la peine, ça sert à rien. On va faire nos... Alors à l'époque, il y avait ni Instagram, ni Facebook, mais on faisait...
Il y avait des revues,
On a fait des expos dans la rue. Moi, j'ai été une des premières à parler d'apartheid. On a fait une expo qui s'appelait Apartheid is Real, en 2003. Même si on s'est fait insulter, traiter de faiseur de haine, tout ce qu'on veut, c'était extrêmement important de porter cette image du peuple palestinien. Mais moi, je le construisais au jour le jour. J'ai pas réfléchi que c'était une archive. C'est au moment où le musée palestinien à Beer Zeit m'a dit « on aimerait bien voir vos images » que je me suis rendu compte qu'il y avait une archive. Et c'est aujourd'hui où on essaie d'anéantir le peuple palestinien qu'on essaie de porter ce récit et la vision d'un peuple vivant, militant, résistant et dans toute sa dimension humaine et sa beauté.
Là, j'avais envie de te demander un peu à toi, Guy, puisque Joss revenait sur le fait que c'était une époque où il n'y avait pas Instagram, où on fait voilà des expos dans la rue, etc., sur finalement aussi la place des médias militants et peut-être aussi la radio. Et donc, c'est des échanges qui ont pu avoir lieu. Et comment est-ce que la radio a pu être, puisque c'est une radio locale, donc ça correspond assez bien à l'intention de cette exposition, a pu être un relais de lutte internationale. Comment est-ce que ça, tu vois, comment ça vous est venu, comment ça a fonctionné? Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Ouais, avant d'arriver sur la question des radios, il y avait les journaux. Bon, par exemple ici, quand je regarde l'expo, il manque des grosses thématiques qui ont été gérées et qu'on fait beaucoup de, où il y a beaucoup d'images. Par exemple, la question des Noirs américains, de la révolte des Noirs américains dans la fin des années 60. La création des Black Panthers. Je me rappelle d'un gros meeting de soutien à Paris au Palais des Sports où il y avait 10 000 personnes. Des groupes importants, l'Art Ensemble of Chicago, les Last Poets, tout ça qui sont venus. Tout ça passait par l'affiche et les journaux. Les journaux, c'était des journaux d'organisation. Pour ce qui est de mon cas, c'était la cause du peuple, mais il y avait d'autres organisations qui soutenaient et des formes de coordination de soutien. Après, les radios libres ont été créées qu'au début des années 80. Sur Paris, il y avait quelques radios militantes. Pour celles qui étaient de mon obédience, c'était Radio Tomate, la radio de Félix Guattari, Gilles Deleuze et toute la bande, qui a commencé à faire des choses au niveau du regard international. Nous, on a gardé des contacts. Quand je dis nous, c'est les gens qui sont passés à travers la GP, puis après l'autonomie. On a continué à garder des contacts, donc on a continué à faire du travail, notamment quand sont sortis de prison les militants des Black Panthers. On a 6 heures d'entretien avec Doruba Bin Wahad, qui est un des leaders des Black Panthers, qui a été enfermé pendant 20 ans. On a fait ça dans les années 90, quand il est sorti de prison, puisqu'il a été condamné à une lourde peine. On a participé aussi à une campagne de soutien pour empêcher que Moumia Boudjamal soit exécuté, qui est une grosse campagne qui a eu lieu sur Paris et qui a été ponctuée par un meeting de 2000 personnes à la mairie de Montreuil, avec un gros plateau à l'époque qui mêlait des artistes, une chanteuse d'opéra, des groupes de rap, des groupes de rock, et qui a rapporté les 35 000 euros qu'il fallait pour payer la défense de Moumia Boudjamal, parce que vous savez que le système de justice américain, si on n'a pas de thunes, on est évidemment condamné. Donc l'avocat était venu en France et nous avait demandé donc un soutien financier. On avait réussi à produire ce soutien financier. On est là au milieu des années 90. Donc on a essayé toujours de rester en contact avec les militants, quelle qu'ait été leur histoire. Je pense qu'il y a un certain nombre de luttes aussi qui ont perduré sous d'autres formes. Aux États-Unis, Black Lives Matter, une série aussi d'initiatives quasi locales. Il y a un atelier de radio, par exemple, qui fonctionne encore dans le Bronx, à New York, qui est géré par des anciens des Black Panthers. Donc on a essayé de maintenir une apparition et une histoire. Pour ce qui est de l'histoire de la Palestine, évidemment, il y a de la nostalgie, bien évidemment, pour chacun qui a été mêlé à cette... Et puis la nostalgie se nourrit aussi, et il faut s'en méfier du drame. C'est-à-dire qu'on est dans le choc émotionnel, et le choc émotionnel est quelque chose qui est à double tranchant. C'est très bien qu'il fonctionne à un moment, mais il faut sortir de ce choc émotionnel. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur la Palestine, à la radio. On a produit déjà 3 ou 4 émissions. On a des difficultés à trouver des livres très politiques sur l'histoire de la résistance palestinienne. Le dernier livre qui a été publié, c'était en 2013. Il est déjà assez ancien. Il ne tient pas compte de l'apparition du Hamas comme force politique réelle en Palestine. Moi, personnellement, j'ai été lié à une organisation palestinienne qui est peu influente aujourd'hui, même si c'est une des seules des regroupements anciens de militants palestiniens, le FPLP de Georges Habash. C'est aussi une forme de nostalgie, puisque je me suis rendu en Palestine au début des années 80 pour défendre les camps palestiniens attaqués par, d'un côté, les milices fascistes libanaises de Bachar Gemayel, qui l'a payé de sa vie. Si je peux dire quelque part que c'est bien fait pour sa gueule, je le dis ici. Et que la solidarité internationale fonctionnait, y compris. J'ai rencontré sur place un certain nombre de militants italiens, allemands, qui étaient prêts à prendre les armes pour défendre la cause palestinienne. Et pour conclure sur la cause palestinienne, il faut comprendre que dans un pays d'émigration maghrébine comme est la France, cette cause avait été bien entendue dans les populations de l'émigration, notamment dans les usines. Elle allait de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était militant sur des raisons sociales, il était convenu qu'il fallait aussi soutenir la cause palestinienne. C'est quelque chose qui a beaucoup changé, parce que la composition de classe a changé aussi beaucoup en France, et qu'on avait à l'époque 10 millions d'ouvriers d'OS d'usines qui étaient largement pourvus d'une fraction de l'immigration. Et disons que ça produisait des capacités d'agir dans les quartiers sur les questions internationales qui ont aussi plus ou moins disparu, et aussi un lien assez direct avec les formes organisationnelles qui étaient développées là-bas. C'est vrai que le discours sur la lutte armée, qui a été une option assez longtemps, du début des années 60 à la fin des années 70, c'était même l'option majoritaire dans le mouvement palestinien, par toutes les organisations regroupées entre elles. Cette option a disparu. Peut-être il faudra mettre en question pourquoi elle a disparu, quelles ont été les options qui ont été proposées jusqu'aux accords de Camp David ou les accords d'Oslo, qui ont été malheureusement détruits, entre autres par l'assassinat d'Isaac Rabin et toute une série d'actes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les gens qui ont tué Isaac Rabin qui dirigent l'État israélien. C'est-à-dire c'est les dirigeants des organisations fascistes sionistes qui dirigent aujourd'hui Israël et qui amènent Israël dans le mur devant lequel il est aujourd'hui.
Tu revenais sur la manière dont une solidarité internationale, elle s'est construite à une époque et sur les changements qu'on pouvait observer actuellement. Il se trouve qu'on avait envie, dans ce plateau, de revenir, si c'est possible, sur l'expérience des missions civiles, puisque l'exposition, c'est internationale, mais en partant de Paris, et que dans cette mémoire des luttes, l'histoire des missions civiles est très peu mise en avant, très peu transmise. Et résultat, si vous pouviez nous raconter aussi un peu cet aspect-là, puisque le regard de l'exposition, mettre en regard le présent et le passé, est autour de la question palestinienne. Voilà.
Parce que je suis mieux placé que moi, mais il faut aussi resituer le contexte dans lequel il y avait un espoir qui a existé autour des déclarations d'Arafat, de la volonté quelque part d'échanger la reconnaissance de l'État d'Israël vers la constitution d'un État palestinien sur les territoires occupés et à Gaza, que cet espoir a disparu quelque part, qui s'est fondu. Les responsabilités, il y en a du côté palestinien, notamment par l'apparition d'une bourgeoisie palestinienne qui a monopolisé le pouvoir après la disparition d'Arafat. Et je laisse Joss parler sur les missions qui sont au centre de la décomposition, qui sont avant la décomposition réelle du mouvement et qui étaient fondées sur l'espoir d'arriver à enfoncer le clou de ces accords et d'obtenir deux États sur le territoire de la Palestine
oui,
historique.
Les missions civiles, elles sont nées après la défaite totale des années Oslo. Moi, j'ai toujours du mal à parler des accords d'Oslo, parce que finalement, il y a eu très peu d'accords. Enfin, les accords qui ont été signés n'ont pas été suivis, de toute façon. Moi, j'ai suivi toute cette période d'Oslo où j'ai vu, où j'ai continué à aller en Palestine et à montrer comment l'apartheid se construisait pendant ces années Oslo. Et déconstruire cette histoire, cette idée de paix entre Palestiniens et Israéliens, puisque les Israéliens les ont complètement trompés. Et ont construit le mur et a fini par se construire à la fin de cette période d'Oslo. Voilà. Alors après, la seule chose, c'est que grâce à ces accords d'Oslo, il y a eu une police palestinienne qui était armée. Et donc la deuxième intifada est une intifada armée, avec des gens qui... Le grand exemple, c'est la résistance des groupes de résistants armés à Jenin, qui ont tué quand même pas mal de soldats israéliens, et qui s'est terminé par la destruction du centre du camp. Hein. Moi, j'y suis allée tout de suite après la destruction du camp. On a fait d'ailleurs une mission civile pendant 3 semaines à l'intérieur du camp détruit, de façon à continuer à avoir cette mémoire de solidarité avec eux, en sachant que... Et puis, pour aussi les protéger, parce que l'armée était sur les collines autour du camp, et tous les matins, on entendait les chars qui descendaient, mais grâce au fait qu'on était installés à 25 personnes dans le camp... bon, après, ils en ont profité... Dès qu'on est parti, ils en ont profité pour continuer à détruire des maisons, mais au moins pendant ces 3 semaines... on a pu d'abord échanger sur la question de la résistance et empêcher que l'armée vienne tuer tous les jours n'importe qui d'ailleurs, hein, parce que l'armée n'a jamais décidé de tuer un militant ou un autre, à part pendant la bataille de Jenin, où c'était une bataille, donc il y avait l'armée et les groupes de résistants. Quand ils descendaient dans le camp pour tuer des gens, ils tuaient n'importe qui, hein, il suffisait de tuer quelqu'un. Donc, y a cette intifada armée, il y a les provocations de Sharon sur l'esplanade des mosquées. Ça commence toujours comme ça, hein, avec une provocation sur l'esplanade des mosquées, où Sharon monte sur l'esplanade des mosquées et la deuxième intifada se met en place, armée pour les groupes de résistants palestiniens. Et nous, on décide d'aller s'interposer d'une certaine manière, de façon à ce qu'il y ait le moins de... C'était vraiment une protection. Alors, on a eu des grandes discussions, hein, sur ce qu'on a... Moi, j'aimais pas beaucoup le mot de mission. Je trouvais que J'avais pas envie d'être missionnaire. Hein. Moi, je suis une fille de républicain, espagnol. Je voulais qu'on s'appelle des brigades.
Ah.
Bon. Et ça n'a pas été choisi parce que brigade, ça voulait dire que on était pour la lutte armée. Il fallait faire un peu profil bas de façon à pouvoir rentrer.
Mm-hmm.
Parce que c'était le grand moment où on nous rejetait à l'aéroport. Donc, ça s'est appelé Mission Civile pour la Protection du Peuple Palestinien. Mais beaucoup de gens sont venus. Hein. C'est vrai que grâce à ce nom, beaucoup de gens sont venus. Des syndicalistes, des communistes, qui ont toujours très peur de la lutte armée, et qui ont très peur de la radicalité. Ça a permis à des gens de venir nous rejoindre et pouvoir... rencontrer aussi les groupes de résistants. Il y avait des résistants armés à Jenin, les brigades de l'Aqsa, Zakaria Zoubeidi, qu'on connaît bien, qui a été aussi celui qui a fait son évasion à la petite cuillère. Là. Mm-hmm. Moi, je l'ai connu à 12 ans, Zakaria. Sa famille avait déjà sa maison détruite quand il avait 12 ans. On a pu permettre à des syndicalistes qui sont... européens, français, ayant un peu peur de l'idée de brigade qui irait se joindre à la lutte armée palestinienne, de rencontrer ces gens-là.
Ouais.
Comprendre aussi quelles étaient leurs actions. L'idée était quand même de protéger le camp. Depuis toujours, les brigades El Aqsa et toutes les brigades palestiniennes, comme aujourd'hui. Moi, je suis allée à Jenin encore en 2022. Les jeunes du camp armé ne sont là que pour protéger le camp. Ils n'ont jamais attaqué l'armée. De toute façon, ils n'en ont pas les moyens. Je pense que s'ils en avaient les moyens, ils l'attaqueraient, ce que je comprends. L'idée, c'est toujours de protéger l'entrée de l'armée dans le camp, de façon à ce que l'armée ne tue pas à tort et à travers la grand-mère, le père, l'enfant, même s'ils continuent à tuer des enfants à bout portant, même à Jenin aujourd'hui. Donc ça a permis à des gens qui étaient un peu frileux d'aller rencontrer aussi ces militants armés et de comprendre quelle était la lutte du peuple palestinien. Il y avait cette résistance toujours d'un peuple qui reste sur sa terre et qui dit « je ne partirai pas » et puis des brigades armées qui empêchaient l'armée de rentrer dans les camps ou de rentrer dans les villes.
Okay.
Alors malheureusement, l'autorité palestinienne s'est rangée du côté de la sécurité israélienne. Je crois qu'il ne faut pas le nier. On a vu, même pendant la deuxième intifada, quand la police palestinienne se retirait d'une ville, ça voulait dire que l'armée rentrait.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 14h, vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes et nous poursuivons l'écoute de ce plateau radio qui se tenait dans le cadre de la deuxième édition de la semaine anti-impérialiste. Et ce plateau était le 1er juin 2025 à la galerie 13 dans le cadre de l'exposition de l'intérieur.
Dans quelle mesure est-ce que vous avez ressenti que vous étiez, vous, nourri, en fait, par l'aspect international des luttes ? C'est-à-dire, dans quelle mesure les luttes internationales vous ont semblé nourrir vos luttes au quotidien en région parisienne ? Comment est-ce que ça peut faire naître des réflexions, ça peut créer des liens, ça peut nous faire avancer aussi, puisque l'idée, c'est quand même que quand on est en solidarité à l'international, c'est parce qu'en fait, on a aussi tous un objectif commun qu'aurait à voir avec, je ne sais pas, une révolution prolétarienne internationale, enfin un truc, je ne sais pas, mais un changement radical et global.
Dans l'histoire du soutien, dans les années 90, s'est mis en place une forme de coordination. Les Lachaïd étaient délégués de la Palestine en France. Du côté du mouvement de l'immigration et des banlieues, Il y avait donc un regard sur la question. Alors, ça posait des questions affectives et aussi la question de la violence, puisque les banlieues étaient en ébullition et que des formes de violence non armées, hein, c'est bien entendu à un autre niveau, se développaient autour de la question des crimes racistes, autour d'autres questions, et que cette question de la violence devait être posée. Et que, bien évidemment, un certain nombre de militants, on parlait tout à l'heure de Nahal Achaal ou d'autres, ou soit Béchara quand elle était en France, les deux Walids, Walid Atala d'un côté, Walid Charara de l'autre, ont aidé à la constitution d'une forme de coordination palestine qui a duré dans les années 90. Moi, j'étais délégué par le MIP pour suivre et organiser les services d'ordre, notamment de cette coordination, sur la base d'un contact direct avec des réalités palestiniennes. D'une part, parce qu'il y avait des militants palestiniens ou libanais ici à Paris qui pouvaient nous expliquer quelle était cette réalité. Et d'autre part, parce qu'ils nous mettaient en contact directement avec des situations de lutte, comme vient de parler Joss récemment. Je crois que cette condition est une condition nécessaire qui doit être aujourd'hui revigorée. On pourrait dire que ce qui se passe sur Internet a une importance, mais qu'elle ne nourrit pas, en dehors du fait de témoignages et de l'émotion qui peut exister, elle ne nourrit pas de contact direct pour l'instant. Donc c'est quelque chose à créer. Peut-être il faut se servir de l'Internet pour ça. Il ne faut pas le rejeter en ensemble, mais l'Internet est un peu un média froid, si on peut appeler les choses comme elles s'appellent. On va essayer de notre côté de monter une structure parisienne qui mettrait en relation des pays en lutte, des peuples en lutte, aussi bien en Amérique latine, en Palestine et ailleurs, pour faire un média centralisé qui prenne en charge cette question. Ça va être discuté avec le CDTIM. Je m'y apprête une fois que j'aurai finalisé le projet sur papier, qui est pas une mince affaire. Je sais que au Liban, notamment, il y a déjà un site en trois langues, en anglais, en français et en arabe, qui est tenu par Nahal Achaal. Donc j'espère la convaincre qu'elle devienne partie prenante de cette expérience. Et c'est quelque chose qui va nécessiter de la coordination, et aussi de pas rester prisonnier comme ça de l'émotion. On est tous extrêmement choqués par ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. C'est évidemment terrifiant dans tous les sens du terme, mais que la question de la nouvelle résistance, c'est-à-dire de ce qu'il faut imposer comme rapport de force aux États, parce que Macron, il fait genre, ou les socialistes font genre, ah oui, il faut reconnaître la Palestine. Mais depuis combien de temps ils auraient dû reconnaître la Palestine pour éviter les massacres qu'il y a aujourd'hui? La seule question à se poser, c'est que ce ne sont que des opportunistes qui jouent leur carte politique en fonction des émotions et qui changent de position, et que leur position centrale depuis le début a été un soutien inconditionnel à la politique israélienne, et que la France livre encore des armes aujourd'hui à Israël, que ce soit des armes de défense. Vous ferez la différence entre un fusil d'assaut pour se défendre et un fusil d'assaut ou un char pour se défendre ou pour attaquer? C'est impossible. Donc tous les experts militaires le savent. Les États-Unis garantissent la protection d'Israël, ayant été jusqu'à leur donner l'arme nucléaire. La France aussi a trempé dans cette histoire. Donc quels sont les types de luttes qu'il faut construire aujourd'hui dans la résistance? Chez moi, il y a de la nostalgie de l'époque des Fedayines, parce que bon, c'était une forme d'action radicale qui faisait en sorte qu'on était en capacité de s'affronter avec notre ennemi, puisqu'il faut parler des choses d'une manière très claire. L'impérialisme d'aujourd'hui est notre ennemi, il règne aujourd'hui sur l'ensemble de la planète, il ne faut pas s'en cacher. C'est un seul pouvoir, le pouvoir de l'argent qui règne. On le voit derrière Trump, on le voit derrière Macron, on le voit derrière l'Union européenne et tout ça. Donc quelles sont les luttes et la manière dans laquelle il va falloir les coordonner pour dépasser les cadres nationaux? Dépasser les cadres nationaux, c'est sortir de l'idée que pays par pays, on va pouvoir sortir de la domination de ce nouvel impérialisme. Ça, c'est faux. On est peut-être aujourd'hui dans le rêve de Marx, c'est-à-dire la finalité du processus capitaliste, c'est l'empire. Je crois qu'il y a des penseurs intéressants comme Negri ou d'autres qui ont travaillé sur cette question-là, et l'empire est aujourd'hui planétaire. Donc la lutte, elle est la lutte de tous contre cet empire. Et souvent les formes qu'elle peut prendre en raison des rapports de force, parce qu'il faut tenir compte des rapports de force sur le terrain, c'est à ça qu'il faut travailler aujourd'hui, je pense. d'une manière, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de la constitution d'unification politique entre les Indiens du Chiapas, entre les militants palestiniens, entre ce qui peut se produire au niveau international de rupture définitive avec le monde de l'argent et avec cette volonté qu'à ce monde de l'argent d'en terminer avec l'humanité, parce que c'est ça auquel on est confronté aujourd'hui. L'Empire aujourd'hui, il règne sur la disparition des populations, c'est-à-dire avec des clowns comme Elon Musk qui nous promet d'aller vivre sur Mars, tout en sachant que c'est impossible, et une fracture sociale qui fait que maintenant, dans toute l'Europe, par exemple, on assiste à la mise en avant de quartiers privés, à des endroits où s'il n'y a pas les forces de répression qui ne pourraient pas tenir, s'il n'y avait pas ces forces de répression, des quartiers privés, de la surveillance permanente des gens. On glorifie quelque part le groupe Anouchian en leur proposant d'aller reposer. On les enterre définitivement en leur proposant de les emmener au Panthéon. Manouchian a été traité de terroriste à l'époque par l'État français, par Vichy et par d'autres. Certains ont dit ils sont battus pour la France. Non, ils ne sont pas du tout battus pour la France. Ils sont battus par une idée qu'ils avaient, majoritairement, qui était l'idée de l'internationale communiste à l'époque. Quelle est la capacité qu'on a de reconstruire une internationale qui se contrepose à l'impérialisme d'aujourd'hui? C'est la seule question qui se pose dans les mois et dans les années à venir.
Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça?
Non, mais c'est vrai. Derrière Guy, finalement, quand il lâche sa dernière punchline, tu peux rien faire. Je devrais lui donner la parole en dernier, en vrai.
On va avoir l'impression qu'après Karl, il y a Groucho. C'est pas bon du tout. Non, mais je partage pour l'essentiel ce qu'a dit Guy. Mais ta question, c'était le rapport, comment on s'est socialisé politiquement à travers les questions internationales.
Ouais.
Moi, j'ai 56 piges, pour quelqu'un de ma génération. Je crois que le tiercé, ça a été Afrique du Sud, Nicaragua, Palestine. Voilà, c'est comme ça que ça s'est joué. Après, si tu veux, j'entendais ce que disait Joss. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, comme ce que moi, je suis un peu en dessous comme génération. Et la perception que j'ai, je verse ça au débat, mais sans vraiment l'esprit de polémique. Hein. Moi, j'ai le sentiment, la campagne, l'affiche qui est derrière là, je crois qu'avec avec Guy, on l'a collée ensemble, celle de 98.
Ouais, c'est l'affiche du MIB.
C'est pour ça que j'ai tenu à mettre ces deux photos. Quand on m'a demandé les photos des missions civiles, j'ai repris donc 85, marche pour l'égalité, troisième marche pour l'égalité avec les keffiyeh. Je faisais partie des luttes de l'immigration. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur l'immigration. Et puis la grande manif du MIB de 98, qui était vraiment, d'abord qui était une manifestation magnifique.
Un succès.
Oui, je crois qu'on n'a pas vécu d'autres belles manifestations comme ça à l'époque, qui faisaient le lien entre immigration, minorité, Palestine, etc.
Moi, j'ai le sentiment, mais c'est vu de ma porte, hein, c'est vraiment de la... Je sais pas, j'ai ni réfléchi beaucoup à la question, ni beaucoup travaillé sur la question. Moi, j'ai le sentiment que sur cette séquence-là, on va dire 98, jusqu'à la fin des missions civiles, à peu près, il y a eu une sorte de fenêtre qui aurait pu être, si elle avait... Si ceux et celles qui étaient en charge de la Dion ouverte avaient su la porter, ça aurait pu être une formidable opportunité de construire un mouvement de solidarité avec le peuple palestinien d'une dimension équivalente aux mobilisations qu'on a connues sur l'Afrique du Sud. Autres. Je pense qu'il y a eu, l'histoire repassera, il y a des gens qui vont s'y pencher un jour. Je pense qu'il y a eu, au-delà des désaccords, on va dire, tactiques, des divergences stratégiques, il y a eu aussi des affaires d'ego, de quant à soi, de groupe. Moi, je me souviens, je suis un peu plus minot que la génération de Guy. Donc, je me souviens, moi, des réunions, je voyais bien. C'est-à-dire, à 14 ans d'écart, je voyais que les enjeux, pour moi, ils n'étaient pas du tout comme certains les posaient, qu'il y avait 15 piges de plus, et que ça recouvrait. Et je pense que c'est aussi à réfléchir pour demain, pour aujourd'hui. Hein. Mais c'est comment tu construis. Comment tu construis une dynamique unitaire, mais qui fasse droit à la diversité des sensibilités. Je vais donner un exemple et je terminerai là-dessus. Nous, on avait monté une petite boîte de prod associative. Et en fait, on produisait des CD, parce que l'ère du vinyle, à ce moment-là, c'était mort. On produisait des CD de solidarité. On a fait une très belle compile pour Mounia Abou Jamal, par exemple, que Guy connaît. Et puis, on a bossé d'arrache-pied pour faire une double compile. qui s'appelait « Il y a un pays, Palestine ». Donc, on l'a produite de manière anonyme, anonymisée, puisque l'idée, c'était ce truc-là. On l'a fait, tu me passeras l'expression, avec notre bitre et notre couteau. On était 4 à la manœuvre, à le faire. Le truc rencontre un succès, parce que nos frangins de Zebda acceptent de poser un morceau. Il y a un certain nombre d'artistes de renom qui acceptent de poser un morceau. Et si tu veux, on a fait ça, tout le monde nous a basé. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une galette qui s'est vendue, compris en circuit de distribution, à plusieurs milliers d'exemplaires. On a financé un centre musical, des instruments, du matériel de sonorisation dans les territoires. Un centime qui a été ailleurs, l'objet qui était annoncé. Mais j'ai un souvenir très précis du fait que quand on a frappé aux portes, l'idée, allez, on va dire 8 fois sur 10, c'était c'est qui, ces branleurs, d'où ils sortent, machin, etc. Personne ne nous a calculé. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que pour que tu parviennes à construire quelque chose de fort, de puissant, de durable et d'utile, parce que tu comprends bien, moi, j'ai vu la qualité des missions civiles, j'ai vu des branleurs, moi, partir, revenir, outiller politiquement. Ça les a conscientisés. Vraiment, hein, j'ai vu, moi, à Ivry, il y a eu des départs d'Ivriens, moi j'ai grandi entre Ivry et Vitry, des départs d'Ivriens, ils sont partis où ils sont suivis, ils sont revenus, ils étaient conscientisés. Mais ce type d'initiative, pour pouvoir les porter, il faut aussi être en capacité de faire large, quoi, de faire plus large que... Il y a eu ça, et puis aussi j'ai vu des mecs, moi, qui partaient faire du tourisme, hein, tu vois, comme je le ressens. Et si tu veux, si on a... La condition que posait Guy, il dit en gros, je vais le mettre dans ma terminologie à moi, il dit c'est socialisme ou barbarie. Tu vois, ce que dit Guy, je signe dès demain. Mais putain, pour s'y mettre, il va falloir qu'on essaye d'imaginer des formes, ouais, des manières d'être ensemble, ouais, de s'entendre, de travailler en commun, etc. Qui soient pas forcément nouvelles, parce que des fois, dans les vieilles casseroles, il y a des choses admirables à faire cuire. Il y a des trucs qu'on a oubliés, peut-être, de ce qui se faisait il y a 50, 70 piges, 80 piges dans ce domaine.
D'où l'intérêt, voilà, de la mémoire des luttes.
Moi, je crois qu'à partir de... Tu vois, les missions civiles, c'est 2001. 2001, 2002, 2003, c'est le grand boom des missions civiles. Mais en France, se met en place une politique islamophobe avec les lois de 2004. Et une partie des gens, comme ça l'est aujourd'hui, hein, les Palestiniens, c'est des Arabes. Tu vois Et c'était beaucoup plus compliqué. Puis les choses se sont un peu effondrées à partir de là aussi. Hein. 2004, la loi sur le foulard. 2005, les révoltes en banlieue. Et l'arrivée de Sarkozy aussi ensuite. Et casse complètement tout ce mouvement-là. Et casse, je pense, aussi un mouvement qui allait que vers la Palestine. On s'est aussi dit il faut lutter ici aussi. Hein, c'était grave. Quand on a commencé à créer, on s'est retrouvés tous dans les collectifs, une école pour tous et toutes, avec beaucoup d'énergie. On avait besoin d'être là aussi, hein, de façon. Et on s'est tous un peu déstabilisés. Je crois, on n'arrivait pas à mener tout de front. Donc, je crois que cette période là, des années 2000, a été une période qui a tué beaucoup de luttes et beaucoup d'énergie, comme on voit aujourd'hui à quel point c'est au point mort même. Hein, donc, je pense que ça a été et puis avec sans doute le fait que oui, moi je suis d'accord avec toi sur moi je me suis mise un peu à l'écart aussi, hein, parce que moi les luttes d'ego et de tout ça ne m'intéressait pas. Et finalement, j'ai fait mon travail en électron libre pendant des années, dont l'exposition sur l'apartheid, que j'ai fait toute seule, en invitant les gens à venir participer, mais avec une énergie farouche, pour que tout le monde vienne me rejoindre, alors qu'une partie des gens ne voulait pas parler, voulait pas entendre le mot d'apartheid, hein, à l'époque. C'était, on me disait, mais comment tu commences à parler d'apartheid? J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut en parler. L'apartheid s'est construit dans les années Oslo. Donc il faut en parler dès maintenant. Ça a mis des années avant qu'on accepte de parler d'apartheid. Et c'est à peine du bout des lèvres aujourd'hui. Donc tout ça a un peu démobilisé les gens, Après, il y a eu une démobilisation au moment où le Hamas a été élu. Il y a eu, dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, les gens se sont, oh mon Dieu, des islamistes, on peut plus soutenir, vous pouvez plus soutenir la Palestine, c'était les islamistes. Et toute cette atmosphère islamophobe qui se mettait en place a eu un effet sur la lutte pour le peuple palestinien, je pense.
Oui, sans négliger aussi le fait que la géopolitique, le monde arabe notamment, a produit d'énormes divisions. L'arrivée de l'Iran sur la place du soutien à la Palestine, on pourrait en débattre plus longtemps, mais disons que ça a posé un certain nombre de problèmes. Le fait est que les peuples, s'ils doivent se libérer, ils doivent se libérer de leur oppression, même si elle est nationale. Et que la question iranienne reste une question centrale, et la question de la répression en Iran est une question importante. Nous, on essaye de monter un projet qui serait le soutien notamment à un jeune rappeur qui est condamné à mort en Iran, qui doit être exécuté dans les mois qui viennent. On a énormément de mal à mobiliser là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que la question palestinienne, elle dérange tout le monde. Elle dérange tous les États de la région. Et que ces États de la région, ils produisent aussi des contradictions dans les mouvements de soutien. Qu'il y a des gens qui arrivent à soutenir, par exemple, un régime comme l'Iran à l'intérieur du mouvement de soutien à la Palestine. Et que ça pose énormément de problèmes.
Pour la Syrie, hein.
Alors, justement, il me semble, au terme de ce plateau, quoi, que toutes les questions qui sont posées, elles sont justement à se poser collectivement. Toutes les questions qui ont été posées dans ce plateau, elles sont à se poser collectivement et d'y réfléchir et de trouver des solutions et échanger et peut-être reconstruire justement des réseaux les uns avec les autres qui permettent une unité qui répond à une diversité aussi de positions. Et évidemment, ça m'oblige à raccrocher avec cette semaine de festival dans laquelle il y a une diversité de collectifs qui, justement, essayent de rentrer en lien les uns avec les autres 20 ans plus tard et en partant d'une certaine mémoire des luttes et d'une certaine manière de penser et la solidarité et l'international en partant de la question locale. Alors, forcément, je te redonne la parole parce que j'aimerais que tu reviennes un tout petit peu peut-être sur cette question-là et puis que tu rentres un peu plus dans les détails du programme de ce week-end de sorte à ce que l'ensemble des auditeurs soient bien au courant de qui va s'adresser à eux, dans quelle mesure, pourquoi et pourquoi leur dire.
Alors déjà revenir sur la liste des co-orgas.
Ah, s'il te plaît.
S'il y a eu des oublis. TEDx, Young Struggle et Samidoun. Mais aussi la Ligue panafricaine Umoja qui prend en charge la table sur la France-Afrique, qui est une des tables les plus importantes pour nous, parce qu'il s'agit de trouver des moyens de lutter contre l'impérialisme français en priorité. L'AFA, le collectif 1871, et les éditions Petit Matin de Novembre, Premier Matin de Novembre, qui ont fortement contribué à l'élaboration de la programmation, l'écriture des textes, des livrets, etc., et qu'on remercie énormément. Et donc, c'est le premier soir, mais on s'apprête à vivre une semaine assez intense. Comme je disais, demain, on se retrouve au cinéma Le Luminor pour regarder La Niebla de la Paz de Joël Stengel qui revient sur la transition pacifique des FARC en Colombie. On discutera avec des camarades colombiens à l'issue de la projection de cette transition et de la façon dont il aborde politiquement. Les deux ans de CEDEC, je dis qu'il y avait un concert, mais il y a aussi évidemment une table ronde. Autour des thématiques de l'exil, avec la marche des solidarités, Belleville Mobilisation et la co-organisation sans papier 75, qu'il ne faut pas oublier. Il y a évidemment le rassemblement au métro Havre Comartin sur le lieu de la mort de Clément le jeudi à 18h30. Et puis à 19h30, la première discussion sur le pan-turquisme, les dynamiques à l'œuvre au Proche-Orient. Avec un certain nombre d'acteurs de la région que je vous laisse consulter dans le livret qui est distribué dans tous les événements et qui vont parler des perspectives actuelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la région en ce moment et c'est important d'essayer de savoir, d'avoir des échos des premiers concernés et des gens qui luttent sur place. Le vendredi, c'est la discussion d'ouverture ennemi intérieur, ennemi global, l'impérialisme comme matrice de la fascisation, avec comme invité Rima Hassan si elle descend du bateau. Françoise Vergès, Norma Najari et Angela Davis en vidéo, malheureusement,
qui n'a pas pu prendre le bateau.
Qui n'a pas pu prendre le bateau, malheureusement. Et qui est suivi par la table sur la Palestine, libération palestinienne, les perspectives de puissance impérialiste, et qui s'annonce être très importante, et notamment dans la... la séquence actuelle de deux solutions d'urgence palestine, c'était très important pour nous de donner la parole à ces militants. La journée de samedi est très chargée, elle commence à 10h avec les discussions sur l'indépendantisme et la révolution, avec des camarades irlandais et des camarades basques qui parlent de l'actualité du nationalisme dans une perspective révolutionnaire. Question compliquée qui, je pense, intéressera énormément de gens parce que la gauche a un rapport particulier, et notamment en France, avec la question de libération nationale, on va dire. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai appelé ça la table prison carcérale, prison coloniale. Elle s'appelle l'angle mort carcéral au cœur de l'Empire, qui suit. Ensuite, la table anti-guerre, anti-armement, reconstruire un mouvement anti-guerre contre la militarisation globale. Qui va être aussi très importante parce qu'elle annonce un week-end de mobilisation
à la
fin du mois de juin, notamment au Bourget, mais aussi dans d'autres lieux.
Tout à fait.
Ensuite, la table sur la France-Afrique, le continuum colonial français en Afrique, Caraïbes et Kanaky, qui est pris en charge par la Ligue panafricaine Umoja et qui rassemble un certain nombre d'acteurs de la région qui vont nous donner plus d'informations sur les perspectives de lutte là-bas et comment est-ce que nous, en tant que militants français, depuis le centre de la colonisation, on peut intervenir, en tout cas venir en aide aux luttes locales. Et puis ça enchaîne sur les concerts le soir, le lendemain la manifestation, et puis à 14h le match de foot organisé par le MFC au centre sportif Lumière. Donc on partira de la flèche de la parole errante pour aller au stade, et puis on reviendra le soir pour prendre un verre et clore la semaine.
Est-ce que tu peux juste nous dire d'où est-ce que part la manifestation et à quelle heure, s'il te plaît?
Midi. 12h à la République. Midi. Il y a des gens qui sont
à la place de la République. Alors, justement, nous, pour clore ce plateau radio et avant de passer la parole à nos camarades musiciens qui vont animer la suite de ce magnifique vernissage, nous avons tout de même envie de vous rappeler que, eh bien, face au silence médiatique ou à la propagande des grands médias, il y a toujours un intérêt à aller écouter des médias militants, des médias indépendants et donc aussi de la radio libre. Voilà, et donc on vous rappelle qu'on est sur le 106.3 FM et que dans nos antennes ou dans nos revues ou dans nos affiches, on peut enfin être libre et exprimer notre parole, notre solidarité et dans les termes qu'on souhaite. Les résultats, on vous engage forcément à venir écouter, participer, créer vos propres médias et nous en parler. Et donc, dans tous ces médias, parce que oui, il y a de la radio, oui, il y a des affiches, oui, il y a des photos, mais il y a aussi de la musique. Et on terminera donc ce plateau radio en présentant les camarades qui vont faire de la musique ce soir lors du vernissage.
Et qui, alors, je pense aussi, sont en train de se mobiliser autour d'une campagne de libération. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que vous avez consacré énormément d'énergie. On voudrait savoir ce qui se passe en ce moment. Je pense que l'audience est la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte pour les militants français qui connaissent pas cette militante qui est aujourd'hui encore, qui est sortie de prison il y a quelques jours?
Oui. Donc, en fait, c'est une ancienne journaliste. Elle s'appelle Zehra Kurtay. Elle était journaliste à l'époque en Turquie, dans le fin 90, les années 90 et début 2000. Elle avait été emprisonnée en Turquie à l'époque et elle avait mené une longue grève de la faim de 186 jours en Turquie. C'était une grève de la faim menée par presque tous les prisonniers politiques de l'époque. C'était contre l'isolement et les nouveaux types de prison où l'isolement allait être encore plus appuyé. Et au bout de 186 jours de grève de la faim, elle avait été victime d'une attaque, et on la nourrit par la force, ce qui est normalement illégal. Et suite à cette attaque, elle a eu des séquelles neurologiques très graves, ce qui fait que elle est handicapée aujourd'hui à l'heure actuelle. Elle a des problèmes de motricité, elle a des problèmes de mémoire, elle a perdu sa mémoire à l'époque, et il y a toujours beaucoup de choses dont elle ne se souvient pas aujourd'hui. Et ensuite, en 2007, elle s'est réfugiée en France en tant que réfugiée politique. Elle a fui le fascisme en Turquie et la torture en Turquie. Elle est arrivée en France, elle a très vite obtenu son statut de réfugiée politique. Sauf qu'en 2008, lors d'une rafle, je vais appeler ça comme ça, contre les militants originaires de Turquie, les militants socialistes, communistes, anti-impérialistes, elle a été placée en garde à vue. Et en 2012, à la fin des procès, elle a été incarcérée en France pour association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste. Elle est restée elle a eu une peine de 5 ans, mais elle est restée 3 ans. Au bout de 3 ans, on a réussi à la faire libérer à cause de son état de santé. Et aujourd'hui, en fait, on est face à une tentative d'extradition. L'État français la menace de l'extradier vers la Turquie, le pays qu'elle a fui. Donc, en fait, elle a des rendez-vous chez le SPIP tous les 3 mois environ. Et lors d'un rendez-vous de routine, j'ai envie de dire, chez le SPIP, encore une fois de plus, on lui annonce soudainement que son titre de séjour est annulé, que son droit d'asile est annulé et que le préfet de Créteil, la préfecture de Créteil du 94, leur annonce qu'elle va être extradée vers la Turquie. Donc, il la place vite en centre de rétention à Rouen, en Normandie. Donc, ça aussi, c'est fait exprès. Il l'éloigne de Paris, il l'éloigne de ses camarades et de ses proches. Et ensuite, commence le combat juridique et le combat aussi sur le terrain, j'ai envie de dire. Parce que d'un côté, d'accord, son avocat a mené vraiment une lutte juridique très sérieuse. Et de l'autre côté, ses camarades, on n'a pas lâché prise. Dès le lendemain, le mardi, on est allé devant la préfecture de Créteil. On a vite organisé un rassemblement, on a distribué des tracts. On a vite été interpellés aussi parce que, bien sûr, il faut 48 heures pour les autorisations. Ensuite, on a commencé à placarder partout, à distribuer des tracts, etc. Et la semaine dernière, il y a eu ces premières comparutions devant le juge où ce qui s'est passé, en fait, c'était au tribunal judiciaire de Rouen. Et lors de sa première comparution, le juge a décidé de sa libération, enfin, qu'il n'y avait pas lieu à ce qu'elle reste dans un centre de rétention. Sauf que le préfet a vite fait appel 2 heures après. Et donc, le lendemain, on s'est retrouvé un samedi au tribunal judiciaire, une fois de plus, face à un nouveau juge. Et cette fois, sauf que malgré que l'audience soit publique, on ne nous a même pas permis de rentrer, de participer. Du coup, on a organisé, en fait, on s'est assis là-bas, on a bloqué l'accès du tribunal. Et on a obtenu le soir même sa libération. Donc maintenant, elle est libre, j'ai envie de dire, sauf que c'est une prison à ciel ouvert, parce qu'elle est obligée de rester à son domicile. Il y a une interdiction de sortie du 94, et tous les matins, avant 10h, elle doit aller signer au commissariat de Cachan. Donc voilà, pour nous, c'est une prison à l'air libre. Donc on n'est pas d'accord non plus avec tout ce qui se passe. Et la semaine prochaine, il va y avoir normalement un nouveau procès. Elle va de nouveau comparaître devant un juge au tribunal administratif de Rouen, où là-bas, ils vont décider en fait de son statut, si elle a le droit ou pas à rester en France et si elle va être extradée ou non en Turquie. Donc en fait, d'accord, on a réussi à la sortir du centre de rétention, c'est une première victoire, mais c'est pas fini. Le risque d'extradition continue parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres camarades du mouvement kurde qui ont été extradés récemment. Et donc on veut pas que Zeyla soit extradée parce que si c'est le cas, elle va être torturée, emprisonnée à vie, tout comme sa collègue Ayten Öztürk, qui a été extradiée il y a 3 ans de ça par le Liban et qui a été torturée pendant 6 mois dans des prisons illégales en Turquie.
On te remercie justement de pouvoir faire le lien et de pouvoir témoigner de cette manière-là. Là, c'est l'exemple d'une femme, oui. Mais la question carcérale en Turquie et la manière dont elle est utilisée depuis maintenant une bonne quinzaine d'années au moins, même suite aux différents mouvements, les mouvements sont même éteints par des incarcérations massives. C'est vrai. Et d'ailleurs, on sait aussi que les demandes d'extradition sont multiples. Notre camarade Pinar Selek aussi. Et c'est important qu'on montre véritablement comment ça se passe en réalité.
C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas.
Mais on t'en prie. Alors peut-être quand même présenter la musique aussi qu'on va pouvoir écouter.
Est-ce que tu veux présenter le groupe Yorum?
Tout d'abord, en tant que groupe Yorum, on aimerait d'abord remercier les camarades qui nous ont invités ici à ce festival qui est très important pour nous. Groupe Yorum est un groupe de musique qui a été créé en 1985 en Turquie. C'est un groupe de musique anti-impérialiste, anti-fasciste. Donc, il faut savoir que depuis la création du groupe, d'un côté, on a toujours été incarcérés, on a toujours mené des luttes en prison ou au tribunal. Et de l'autre côté, on a toujours été aussi sur scène jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, notre lutte continue et on a encore des membres de notre groupe qui sont aujourd'hui prisonniers en Turquie et en Allemagne. Il y a donc au total 21 personnes qui sont prisonniers, 20 en Turquie et une personne en Allemagne. Donc, pourquoi une telle répression envers nous? Il faut savoir que, en fait, c'est notre musique, c'est notre art qui les dérange. Parce qu'on ne fait pas n'importe quelle sorte de musique, on fait, on est un groupe révolutionnaire et dans toutes nos chansons, on exprime en fait que le principal ennemi est l'impérialisme et que toutes les douleurs que l'on vit, les raisons de la mort de nos enfants dans notre pays et dans le monde entier, c'est l'impérialisme lui-même, ce qui fait que ça dérange bien sûr les pays impérialistes et ça dérange aussi ses collaborateurs comme notre pays, la Turquie. Bien sûr, il faut aussi savoir que leur peur vient du fait qu'on a organisé en 2015 un concert à Istanbul où il y avait 1,5 million de participants. Donc c'est en fait le plus gros concert de Turquie. Aucun artiste, j'ai envie de dire, populaire ou connu du grand public n'a pu organiser de tels concerts. Et le titre de son concert, c'était « Vive la Turquie libre, indépendante », ce qui fait que ça les a très, très dérangés. Et c'est surtout ensuite, en fait, après 2015, que les concerts ont été interdits, notamment. Je tiens aussi à dire qu'on est un groupe anti-impérialiste, antifasciste, mais aussi internationaliste, bien sûr, ce qui va avec. Et ce qui fait que nos chansons ne sont pas toujours seulement en turc. On a des chansons internationalistes, mais aussi on traduit certaines chansons internationalistes, comme Bella Ciao, ou comme d'autres chansons encore. Et il faut savoir que depuis 1985, on a publié, on a 22 albums qui ont été publiés. Et dans ces 22 albums, on a 6 chansons dédiées à la Palestine, notamment. J'aimerais aussi, vu que c'est le sujet, saluer le peuple palestinien, la lutte du peuple palestinien, et aussi exprimer notre soutien. Il faut savoir que l'an dernier, on s'est rendu en Syrie pour organiser des concerts de soutien avec la Palestine. On en a organisé 3. Et lors de ce concert, on a rencontré les Palestiniens aussi qui vivent en Syrie. Et ces concerts étaient très importants pour nous. On a aussi voulu tenter de nous rendre aussi en Palestine pour organiser des concerts de soutien, enfin les soutenir là-bas, mais ça n'a pas été possible malheureusement. On s'est aussi rendu il y a quelques mois de ça à Donbass pour en fait parler un peu. En fait, on s'était déjà rendu là-bas avant et on avait filmé un documentaire sur la réalité, sur ce qui se passe là-bas, sur comme appellent les grands médias aujourd'hui en France, notamment la guerre en Ukraine. On voulait filmer la réalité de Donbass en fait. Et on avait créé un documentaire et on est retourné à Donbass il y a quelques mois de ça pour le montrer au peuple là-bas. Et on a donné un concert à 500 personnes là-bas. Et pour finir, pour résumer, je tiens à dire qu'en fait, nous, d'accord, on est un groupe de musique, on fait de la musique, mais on exprime notre solidarité avec la musique. Et on est là où, en fait, il y a une pierre qui est lancée contre l'impérialisme, on est toujours là-bas. On est toujours aux côtés des peuples qui luttent contre l'impérialisme et on va continuer notre lutte. On sera toujours là où une lutte contre l'impérialisme continuera d'être menée. Et ce qui nous a aussi mené à être aujourd'hui ici, présents ici. Donc on tient de nouveau à vous remercier pour cet événement qui est très, très important. On est fiers d'être ici, de faire partie de ce festival.
Merci.
Bah écoutez, merci beaucoup. On te laissera le mot de la fin pour terminer ce plateau radio. Et puis on va maintenant... tous venir vous écouter faire de la musique pour nous donner de la force et justement continuer à lutter toutes et tous ensemble. Merci beaucoup.
Şevat şu meşame
العشر والأنجال
pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.